Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission Nouvelles de Russie. Je vous propose aujourd'hui un texte de Ludmila Ulitskaya. Alors, Ulitskaya, on en a beaucoup parlé lorsque le régime soviétique s'est effondré. Elle est née en 1943 et même sous le régime soviétique, elle écrivait, elle n'était pas éditée et je voudrais vous proposer aujourd'hui une nouvelle où, en faisant une sorte de collage sur plusieurs histoires qui se passent dans le même immeuble, elle arrive à restituer pour quelqu'un qui ne connaît pas, et encore plus pour quelqu'un qui a connu cela, la vie des gens en URSS à la fin du régime de l'URSS. Et surtout la vie dans ce qu'on ignore en France, les appartements communautaires. Vous savez, ces appartements où les gens, parfois, s'entassaient à trois ou quatre dans une même pièce. La pièce à côté, parfois, il n'y avait même pas de cloison qui allait jusqu'en haut. La cuisine était commune, le frigidaire était commun. Parfois, il y avait deux frigidaires et les gens fermaient avec des cadenas. Et la nouvelle de Ludmila Ulitskaya s'appelle « Le court-circuit ». Vladimir Petrovitch claqua la porte de l'ascenseur et au même moment la lumière s'éteignit. Des ténèbres absolues s'abattirent sur le monde, il fut saisi d'épouvante. Il resta un moment sans bouger, essayant de secouer cette impression de nuit infernale, mais ne le quittait pas, il se dirigea à tâtons vers la porte d'entrée, là où elle devait se trouver. À un moment donné, il sentit une marche sous ses pieds, il s'arrêta, son cœur frémissait, palpitait, ne songea même pas à sa trinitrine. Il descendit 5 marches. Les mains tremblantes, il chercha la poignée. Il la trouva, appuya sur la porte, elle ne s'ouvrait pas. De nouveau, ce fut l'épouvante, une épouvante incommensurable, nocturne, sur laquelle la raison n'avait aucune prise. De tout son corps, il cogna contre la porte et sentit qu'elle le repoussait. Quelqu'un ouvrait d'extérieur, un rectangle de lumière apparut. Une femme s'engouffra. La porte claqua derrière Vladimir Petrovitch, il reste là, adossé à l'extérieur, à l'air libre, à la lumière. C'étaient les jours les plus sombres de l'année, il était en proie à sa déprime hivernale. Il s'était décidé à se lever, à sortir pour aller voir son vieux professeur, devenu aveugle depuis longtemps. Ce dernier lui avait demandé une copie sur CD d'un disque auquel il tenait beaucoup. Cela faisait déjà plus d'un mois que CD attendait. Et il alla trouver le professeur. La femme qui avait libéré Vladimir Petrovitch des ténèbres était Angela. Une Moldave vivant depuis 4 ans dans la capitale, avec un mari insignifiant qui lui avait procuré un permis de séjour et son fils, Constantin. Âgé d'un an et demi, qui attrapait toutes les maladies infantiles les unes après les autres. L'obscurité dans laquelle était plongé lui-même ne la troubla pas le moins du monde. Elle trouva rapidement sa porte, chercha la sonnette à tâtons. Celle-ci ne marchait pas, évidemment. Elle avait bien une clé dans son sac, mais n'allait pas tâtonner dans l'obscurité. Elle tapa sur la porte à coups de poing. Son mari, qu'elle avait laissé à la maison pour surveiller son fils, émergea de son sommeil d'ivrogne, lui ouvrit. Le petit garçon dormait aussi. C'était un enfant calme. Quand il avait de la fièvre, il ne pleurait pas, il ne faisait pas de caprices, mais dormait d'un sommeil brûlant, presque sans se réveiller. Le mari marmonna des mots incohérents dans son sommeil et s'effondra de nouveau. Angela réfléchit un moment, puis ressortit discrètement. Elle avait un petit ami, l'électricien du bureau d'entretien de l'immeuble. Rudik l'Arménien, un émigré lui aussi. Un gars bien, il avait une chambre de service au sous-sol avec une banquette. Elle descendit un demi-étage. Lui aussi dormait, il lui ouvrit. Il fut tout content, l'enlaçant, un gars bien jeune, mais sans papier, avec juste un permis de séjour provisoire. Quand la lumière s'était éteinte, Choura était debout au milieu de la cuisine et se demandait si elle allait se faire des pommes de terre sautées ou de la cacha. Maintenant, à cause de l'obscurité, ses pensées s'étaient arrêtées net. Elle attendit un peu, puis chercha l'interrupteur à tâtons sur le mur, le tripota, il n'y avait pas de lumière. Les deux réfrigérateurs, le sien et celui de sa voisine, étaient devenus silencieux. Même la radio, qui roucoulait sans arrêt de l'autre côté de la cloison, avait fermé son clapet apparemment. Elle aussi, elle marchait à l'électricité, se dit Choura. Elle tapota la table, trouva des allumettes. Avec la deuxième, elle alluma un brûleur à la cuisinière. C'est une vieille cuisinière, le gars ne sortait pas régulièrement. Elle tâtonna sur la table, sortit un filet de pommes de terre. Pas question de les éplucher dans l'obscurité, si elle les faisait en robe des champs, elle tricura encore une fois l'interrupteur. Sortit à tâtons dans le couloir, ouvrit la porte d'entrée. Ah, si Milovanova peut être coincée dans l'ascenseur, se dit-elle. Milovanova était sa voisine, dans cet appartement de communautaire depuis 20 ans. Elle l'avait en travers de la gorge. Choura retourna dans la cuisine. Une idée intéressante lui était venue à l'esprit. Les réfrigérateurs se trouvaient l'un à côté de l'autre. De la marque Saratov, achetés la même année, exactement les mêmes. Elle ouvrit celui de sa voisine. Ça sentait la nourriture. Milovanova cuisinait beaucoup pour elle-même, pour son mari. En plus, elle portait les casseroles à sa fille. Son réfrigérateur était bourré à craquer de casseroles et de prévisions. Visiblement, elle faisait des stocks de conserves pour envoyer à son fils Dima en prison. Choura trouva à tâtons une petite casserole, la sortit. Elle mit le doigt dedans, ça ressemblait à de la cacha. Elle se lécha les doigts, c'était bon du bœuf stroganoff. Voilà ce que c'était. Choura réduisit le feu, posa la casserole dessus, et sans attendre que ce soit chaud, commença à pêcher des morceaux avec une cuillère. Milovanova faisait de bons petits plats. Choura ne savait pas cuisiner comme ça. Si elle avait su, elle n'aurait pas trimé toute sa vie comme femme de ménage à l'usine, elle aurait travaillé aux cuisines. Choura mélangea avec sa cuillère. C'était quand même meilleur chaud. Pas la peine de se dépêcher. Tant qu'il n'y aurait pas d'électricité, Milovanova ne se montrerait pas. Elle avait peur du noir. Je lui dirais que je me suis trompé de réfrigérateur dans l'obscurité. J'ai une casserole exactement pareille. Je lui dirais, excuse-moi, je l'ai mangé par erreur ton bœuf. Elle le puisa avec sa cuillère dans le fond, là où c'était plus chaud. La sauce était à la crème, bien grasse. C'était de la viande de bœuf. Qu'est-ce qu'elle pouvait bien rajouter dedans pour que ce soit si bon? Choura mangea tout le bœuf stroganoff et en plus gratta le fond avec sa cuillère.
Oh,
Boris Ivanovitch Maguichev était dans sa chambre. La lumière était éteinte et il regardait la télévision. D'abord, il crut que le téléviseur était tombé en panne, il se leva pour allumer, pas de lumière. Bon, le téléviseur n'avait rien. Il habitait cette maison depuis sa construction, depuis 35 ans. Les meubles appartenaient à la fabrique de parfums, Boris Ivanovitch aussi appartenait à la fabrique. Il y avait travaillé toute sa vie, depuis l'âge de 16 ans jusqu'à sa retraite. Après sa retraite aussi, il s'occupait des machines. Quand il avait commencé, tout se faisait à la main, il n'y avait même pas de tapis roulant. Maintenant, la production s'était perfectionnée, tout était mécanisé, il était responsable de la chaîne d'un bout à l'autre. Personne ne savait mieux que lui mettre au rancard les mécanismes démodés, se débrouiller avec les nouveaux. Le travail à la chaîne. C'est peu dire que Boris Ivanovitch l'aimait ou le respectait. Il représentait pour lui le modèle et l'exemple d'une vie intelligente et régulière. Une vie qui progresse. Lui, sa vie avait été faussée dès l'enfance. Son père avait été arrêté en 1937. Il ne s'en souvenait même pas. Sa mère était morte quand il avait 8 ans. Il avait vécu dans un orphelinat. Ensuite, il s'est retrouvé dans une école professionnelle. C'est seulement quand il avait été engagé à la fabrique que sa vie avait commencé à se redresser. Avec le travail à la chaîne. D'ailleurs, il a suivi les cours du soir d'une école technique, justement pour saisir toutes les ficelles du fonctionnement de l'existence. Il y avait une chose qu'il savait depuis longtemps sur le fonctionnement de la vie. L'important, c'était que l'élément de la chaîne qui apportait la marchandise ne s'arrête pas, qu'il la fournisse de façon régulière. Et c'était comme ça qu'il vivait, comme un travailleur à la chaîne. Il se levait, il prenait son petit déjeuner, il allait à la fabrique. Elle n'était pas très loin, un quart d'heure de chez lui. Si le vent venait du sud, ça ne sentait rien, mais s'il était immobile, il n'avait qu'à suivre l'odeur de savon de ménage, les relents de parfum. Tout le quartier en était imprégné. Il rentrait après son travail, mangeait, se couchait. Ça faisait longtemps qu'il ne travaillait plus dans l'équipe de nuit. La vie se conduisait avec lui d'une façon régulière, comme le mécanisme bien huilé d'un tapis roulant qui fournit la marchandise avec les intervalles nécessaires. Dans le mécanisme de la vie, cette coupure d'électricité était une panne qui devait être réparée sans tarder. Mais tout l'immeuble était dans l'obscurité. Et voici comment la nouvelle se dénoue. Angela venait juste de quitter Rudy, qui l'avait enfoncé un tournevis dans le tableau de contrôle. La lumière s'était rallumée dans tout l'immeuble. Près de l'entrée attendait l'énorme chienne, Lota, toute heureuse. Elle avait couru comme une fosse, s'était roulée dans la neige. Maintenant, elle attendait son maître. Il mettait un peu trop longtemps à revenir, mais les Terre-Neuve sont des chiens sur lesquels on peut compter. Elle restait docilement, les flocons tombés sur son épaisse fourrure. Tout paraissait plus lumineux avec la neige. Et dans l'immeuble, la lumière était revenue. Je vous remercie de m'avoir écouté.